France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction. Avec vous Thomas Cluzel, rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. À chaque jour, ça a contradiction. Aux États-Unis, hier, Donald Trump a mis en pause les droits de douane pour les produits mexicains et canadiens. Une incohérence de plus aux conséquences incertaines et qui vient semer la confusion, on le verra, sur les marchés. Depuis quelques jours, Emmanuel Macron tente, lui, de reprendre la main sur le développement de la défense du vieux continent, au point que Vladimir Poutine l'accuse de vouloir que la guerre continue. On en parlera avec notre invité Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques. On se rendra par ailleurs en Ukraine pour écouter les témoignages de soldats inquiets du revirement américain. On décryptera ces affrontements sans précédent en Syrie avec des combattants fidèles à l'ancien président Bachar al-Assad. Enfin, en France, on mesurera le chemin qui reste encore à parcourir pour atteindre enfin l'égalité homme-femme dans le secteur de la culture. Imprévisible, irascible et prêt à s'affranchir de toutes les règles. Depuis son investiture à la Maison-Blanche, pas un jour ou presque ne se passe sans que le monde n'assiste en spectateur désorienté, voire sidéré aux extravagances de Donald Trump et de sa diplomatie du choc. Face à cela, les voix critiques de certains élus américains commencent malgré tout à se faire entendre. À en croire les derniers sondages, l'opinion publique ne semble pas franchement persuadée que l'avenir sera aussi radieux que le promet le milliardaire. Les indicateurs mesurant la confiance des consommateurs s'enfonce, l'inflation accélère. Quant au marché, ils semblent, eux, carrément horripilés par le manque de cohérence du président. Hier, la dernière volte-face de Donald Trump, signant un décret donc pour finalement reporter une partie de l'imposition de droits de douane contre le Canada et le Mexique, n'y a même rien fait. La bourse de New York comme le Nasdaq ont reculé. Alors jusqu'à quel point la confiance est-elle brisée, au moins provisoirement? Célia Gauthier a posé la question à Émile Gagnat, directeur adjoint de la recherche économique à Candriam et professeur à l'Université Dauphine.
C'est le rôle des marchés en quelque sorte, de réagir à chaque nouvelle importante qui arrive. Donc effectivement, ils réagissent assez rapidement. Bien évidemment, l'économie, elle, ne bouge pas aussi rapidement que les marchés, mais ils sont bien obligés de s'adapter à la nouvelle donne et aux nouvelles informations en matière en particulier de droits de douane qui se sont multipliés. Les marchés risquent aussi de faire un petit peu des allers-retours. Ceci étant, là encore, ces allers-retours, au bout d'un moment, il y a de grandes chances qui mènent les marchés, les places boursières, aux États-Unis en particulier, sur des niveaux plutôt inférieurs, puisque là encore, l'incertitude joue et pèse sur les entreprises américaines. La question, c'est toujours la même, c'est jusqu'où ira Donald Trump? Voilà. Nous, on est assez convaincus que s'il continue dans cette direction, ça entraînera un coup de frein sensible à minima sur l'économie américaine. Et ce qu'on ne sait pas, c'est où sont ses limites, quel est son seuil de douleur, entre guillemets, en matière économique. Est-ce qu'il est prêt à voir le taux de chômage remonter un petit peu? Est-ce qu'il est prêt à voir les prix monter fortement et des ménages être déçus à cet égard?
Voilà, Émile Gagnat, donc directeur adjoint de la recherche économique à Candriam, il répondait à Célia Gauthier.
L'Union européenne n'a pas dit son dernier mot.
Face aux récents agissements de Donald Trump qui, non content d'avoir suspendu l'aide militaire de son pays à Kiev, chercherait aussi à aiguiser les appétits des politiciens ukrainiens pour chasser Volodymyr Zelensky du pouvoir, tout en faisant le jeu du maître du Kremlin, l'Europe se devait d'afficher une détermination marquée au fer rouge et hier bien déterminée à réagir face au désengagement américain. Les dirigeants des 27 ont donné leur feu vert à un plan ambitieux visant à mobiliser quelque 800 milliards d'euros, un consensus permis en grande partie grâce au leadership affiché par l'Allemagne et la France, avec notamment la possible extension de son parapluie nucléaire. L'occasion de revenir un instant sur l'allocution solennelle du président Emmanuel Macron mercredi soir sur la sécurité en Europe, un discours que l'on qualifiera de musclé, et s'il est un pays où l'intervention du chef de l'État appelant les Français à prendre conscience de l'ampleur de la menace venant de Moscou ne pouvait pas passer inaperçu, c'est forcément la Russie où les propagandistes et autres officiels n'ont pas hésité à tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron, accusé de chercher la confrontation. Alors hier soir, devant la presse, Emmanuel Macron a réagi aux attaques qui l'ont visé, à commencer par celle adressée par Vladimir Poutine lui-même. Compte rendu signé Marie Mollet.
Hier, Vladimir Poutine l'a accusé de vouloir revenir au temps de Napoléon. En clair, l'envahisseur, c'est lui. On sait, dit-il, comment ça s'est fini. Référence au fiasco de la campagne de Russie, la menace est explicite. Alors hier soir, depuis Bruxelles, Emmanuel Macron réplique.
Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. En tout cas, c'est un contresens historique. C'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu.
Mais hier soir, il a aussi piqué Donald Trump. D'habitude, Emmanuel Macron prend toutes les précautions du monde pour le ménager, même quand les mots du président américain imitent ceux du Kremlin. Exception hier soir, Donald Trump venait de mettre en doute la solidarité militaire de la France si les États-Unis avaient un problème.
Nous sommes des alliés loyaux et fidèles. Que quiconque ose en douter regarde simplement l'histoire contemporaine qui est la nôtre. Elle justifie ce que nous avons pour les États-Unis d'Amérique, ce que j'ai pour ses dirigeants, respect et amitié. Et je pense qu'on est en droit de réclamer la même chose.
Le président français qui ose griffer, il est vrai, il se sent renforcé après le sommet européen sur la défense. C'est l'Europe qui s'aligne sur ses idées. À lui, s'enflamme l'un de ses soutiens. Ça fait 8 ans qu'il s'époumonne, dit-il, souvent seul.
Alors, est-ce qu'après le spectaculaire réchauffement des relations de la Russie avec l'Amérique au Nil, la véritable menace pour Vladimir Poutine se nommerait à présent Emmanuel Macron? Pour le savoir, invité de la rédaction à présent, Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques à l'université Paris-Cité et auteur notamment de Géopolitique de l'intimidation, paru le mois dernier aux éditions Odile Jacob. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Parmi les très nombreuses réactions donc à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron, le porte-parole du Kremlin a notamment estimé que ce discours prouvait que la France pense à la guerre. Faut-il considérer qu'un discours aussi ouvertement tourné contre la Russie nous rapproche d'une situation de guerre avec ce pays ?
Non, je pense qu'il y a un certain moment où il faut que nous répondions, parce que la Russie n'a pas aménagé ses attaques verbales contre la France, notamment son ancien président Medvedev, qui est souvent dans l'outrance. Donc, on a bien compris que c'était une espèce de joute verbale automatique de la part de la Russie. Cette référence à Napoléon, elle est un peu maintenant systématique. À chaque fois que la France dit quelque chose, vous avez des médias ou des trolls russes qui nous ressortent Napoléon. Bon, j'aurais tendance à dire que puisqu'ils jouent toujours sur le même registre, c'est pas si grave que ça, paradoxalement.
Il y a un peu moins d'un mois, c'était le 18 février, je crois, Emmanuel Macron avait déjà évoqué cette menace donc existentielle que la Russie fait peser sur l'ensemble du continent. Qu'est-ce qui a changé, ou pas d'ailleurs, avec le discours de mercredi soir ?
C'est l'explicitation dans un cadre solennel et le fait d'assumer ce qui jusque-là était une analyse, mais qui aujourd'hui est un message à la nation. C'est évidemment pas tout à fait le même statut. C'est-à-dire que dire dans des propos ou même dans une interview où il y a une menace existentielle, c'est une chose si on le dit à la presse, même si on sait que ça va être relayé, c'est déjà un premier signal. Le dire aux Français en s'adressant directement à eux sur le ton solennel que nous avons vu, c'est évidemment une étape de plus pour désigner une sorte de menace, cette fois officielle. Donc on passe presque à quelque chose qui est de la doctrine. Alors on sait qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a un exercice de révision qui s'annonce de notre revue stratégique, qui est un exercice un peu de doctrine. Alors avant, on appelait ça le livre blanc, c'était sur une base assez irrégulière. Maintenant, c'est un exercice qu'on fait de façon beaucoup plus régulière, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre sur le papier notre doctrine, notre vision du monde, la préparation de nos forces. Peut-être faut-il s'attendre à ce que dans la prochaine révision de ce que l'on appelle maintenant la revue stratégique, qui est un peu notre doctrine, nous citions explicitement cette menace quasiment officielle cette fois.
Ça veut dire que ce discours d'Emmanuel Macron acte un tournant, ou bien est-ce que cette confrontation jusque-là, vous le disiez, verbale entre Paris et Moscou reste de l'ordre du registre, disons, plus ou moins ordinaire ?
Il y a une montée des tensions, évidemment, à partir du moment où il y a un pays qui résiste et qui prend un petit peu le leadership en Europe avec d'autres, mais de cette résistance, de cette organisation d'une structure européenne pour se défendre, forcément, à partir du moment où, et à partir du moment où on vise explicitement la Russie, on arrive à un face-à-face. Alors, c'est un duo qui a connu beaucoup d'aléas, hein, ce duo Poutine-Macron, parce qu'on se souvient que le président de la République, le nôtre, avait fait beaucoup d'efforts, y compris tard, avant la guerre, pour essayer de discuter. On se souvient de cette image qui a marqué tout le monde, de cette immense table avec Vladimir Poutine, qui le tenait à distance, peut-être aussi pour des raisons dues à la pandémie à l'époque, mais qui avait marqué les esprits. On se souvient aussi qu'il y a eu des ruptures lorsque le Kremlin a dit on ne discute plus avec les Français, ils ne sont pas sérieux, ils ont relayé nos propos sur les médias, etc. Donc c'est un tandem qui est déjà éprouvé, si je puis dire, et qui aujourd'hui arrive encore à une nouvelle phase. Mais je ne pense pas que ce soit pour autant une rupture totale. Et dans l'allocution du président de la République, il a dit à un moment que peut-être un jour, la Russie retrouverait une place normale en Europe. Ce n'est pas la population russe qui était visée, c'était bien évidemment ses dirigeants.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences directes, selon vous, à attendre de ce discours d'Emmanuel Macron?
Il y a une conséquence directe, comme on l'a dit, c'est qu'on a explicité qui était aujourd'hui la menace principale. Ah, d'abord, c'est aussi une réponse au vice-président américain qui est venu nous donner une leçon de démocratie en Europe à Munich en nous disant que la menace principale contre l'Europe, c'était notre atteinte à la liberté d'expression. Ce qu'il appelle l'atteinte à la liberté d'expression, c'est quand ce que nous essayons de bloquer un certain nombre de trolls ou de discours russes. Mais c'est aussi une réponse à cela, c'est-à-dire que non, la menace principale, existentielle, ça avait déjà été dit, c'est la Russie, et ça a été dit dans une adresse à la nation.
Donc des menaces qui subsistent notamment sur ce qui reste en tous les cas de voie diplomatique.
Ça n'efface pas la possibilité de voie diplomatique. D'ailleurs, parce que le président de la République a toujours été quelqu'un, ça c'est une constante quand même dans son action, qui a toujours dit il faut dialoguer, quoi qu'il arrive. Et faisant sentir que la diplomatie, c'était pas juste parler avec les gens qui étaient d'accord avec nous, mais précisément avec ceux qui ne l'étaient pas. On lui a fait le reproche, y compris avec d'autres chefs d'État, du Moyen-Orient, du Golfe et d'autres. Il a toujours eu, ça c'est vrai, là-dessus, il a toujours eu la même réponse, c'est-à-dire le dialogue avant tout. Avec Poutine, ça lui a été reproché, y compris par des pays d'Europe centrale et orientale. Ou Balte, qui a dit « Mais comment pouvez-vous encore discuter avec ce monsieur ?» La réponse française a toujours été la même. Donc je ne pense pas que ça efface, si vous voulez, la possibilité d'une diplomatie.
Et on terminera par ces mots. Merci Frédéric Chavion, donc professeur des universités en sciences politiques à l'Université Paris-Cité, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'intimidation, paru aux éditions Odile Jacob. Et merci à Louise Guérin pour la préparation.
S'agissant directement de l'Ukraine cette fois-ci, qu'est-ce que le double coup de force de Donald Trump, à savoir interrompre les livraisons militaires et le partage du renseignement, peut avoir pour conséquence sur le déroulement de la guerre?
Ou dit autrement, est-ce que la décision américaine est susceptible de rebattre les cartes sur le champ de bataille, soit en gelant les combats, soit en donnant à l'envahisseur un avantage décisif à court terme? Kiev a toujours de quoi résister sur le front. La question, en revanche, est de savoir jusqu'à quand. D'autant que ce sont bien entendu les civils qui risquent de payer le prix fort. En ce sens, impossible de nier que l'heure est bien entendu à l'inquiétude, sans compter que la désertion des États-Unis pourrait aussi avoir un effet direct sur le moral des troupes. Notre envoyé spécial Virginie Pironon a posé la question à des soldats postés dans le Donbass.
En treillis kaki, regard franc d'un bleu profond, Viktor Yabeshko est militaire de carrière. 33 ans qu'il est dans l'armée. À 56 ans, ce lieutenant-colonel devrait être à la retraite, mais ce natif de Donetsk, où il s'est battu depuis 2014, a dû reprendre du service. Pour lui, le désengagement des États-Unis est très inquiétant pour les mois qui viennent.
C'est une telle déception, cette attitude envers nous. C'est pas catastrophique, mais ce sera plus dur, même si je pense qu'on va s'en sortir. J'ai plus l'âge de m'énerver. C'est pas comme quand j'étais plus jeune, donner un bon coup de poing à quelqu'un dans les dents ne règle rien. Mais il y a quand même des gens à qui il faut le faire. Et peut-être qu'il faudrait le faire à Trump. Malheureusement, ça ferait un scandale.
Mais pour le militaire, avec le soutien des Européens, le pays pourrait tenir face à l'agresseur russe, à condition que ça dure.
Si toute l'Europe reste unie, alors oui, il faut qu'ils comprennent que si l'Ukraine tombe, ils seront les prochains.
Du haut de ses 2 mètres, Yevren, 25 ans, est droniste à Tchassiviar. Cela fait un mois seulement qu'il a reçu sa convocation et rejoint l'armée. Il assure que pour le moment, dans son secteur, les troupes ukrainiennes tiennent bon.
Oui, dans l'ensemble, on tient. C'est l'état d'esprit qui compte. Il y aura l'aide de l'Europe, plus nous-mêmes. Maintenant, notre pays a lancé pas mal de production d'armes. Tout ira bien pour l'Ukraine.
Selon les autorités ukrainiennes, l'armée dispose de 6 mois de réserve d'armes pour tenir face à la Russie.
Un reportage dans le Donbass signé Virginie Pironon. J'ajoute que ce matin, après une attaque massive de drones et de missiles russes, le président Zelensky a de nouveau appelé à une trêve dans les airs. Alors si les États-Unis, on l'aura compris, se détournent aujourd'hui assez largement de l'Europe, en revanche, ils soignent bien davantage leurs alliés asiatiques, manière de contenir la Chine. Ce qui au fond d'ailleurs revient à attester toujours et encore de cette même stratégie de maintien de la suprématie américaine. Une question se pose malgré tout s'agissant du sort de Taïwan. L'île a longtemps joui du soutien du Congrès américain, mais depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, certains craignent que le nouveau locataire, la Maison-Blanche, ne la considère pas comme valant la peine d'être défendue si la Chine venait à l'attaquer et à l'envahir. Et c'est dans ce contexte incertain donc que le ministère taïwanais de la Défense a affirmé avoir détecté ce matin pas moins de 11 ballons chinois, généralement remplis d'appareils électroniques, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis août 2023.
De violents affrontements dans le nord-ouest de la Syrie ont fait plus de 70 morts.
Depuis qu'une coalition de groupes rebelles islamistes a renversé Bachar al-Assad, le rétablissement de la sécurité est certainement le défi le plus urgent pour les nouvelles autorités. Or, ces derniers jours, des combats ont donc éclaté dans la région de Latakié, ce bastion de la minorité alaouite du président déchu. Des combats qui, en 24 heures seulement, ont fait 71 morts. Christian Chénaud, bonjour.
Bonjour.
Depuis, un couvre-feu a été instauré et ce matin, Christian, les forces de sécurité ont envoyé des renforts avant de lancer d'importantes opérations de ratissage.
Oui, ces forces de sécurité du nouveau régime sont tombées dans plusieurs embuscades. Les attaques ont visé des points de contrôle et des patrouilles. Ces violences les plus graves depuis la chute du régime en décembre dernier se sont déroulées, vous l'avez dit, dans le fief de la minorité alaouite dont est issu Bachar al-Assad, notamment à Jablé ou encore à Beit Hana, village dont était originaire Souher el-Hassan, l'ancien chef des forces spéciales du dictateur, surnommé le Tigre, et qui a disparu dans la nature depuis l'effondrement du pouvoir baasiste. Alors, dans la montagne alaouite, les anciens loyalistes du régime déchu, connectés au réseau mafieux de trafic de drogue et d'armes, sont encore très puissants et disposent de moyens financiers considérables, notamment en argent liquide. Leur capacité de nuisance est donc très importante et ils entendent bien conserver la main sur leurs précarés et leurs activités illicites. Ces incidents violents illustrent toute la difficulté des nouvelles autorités syriennes à rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire, faute d'avoir suffisamment d'hommes sur le terrain et alors que l'appareil sécuritaire est en pleine reconstruction, donc encore très fragile. À ce stade, le nouveau pouvoir installé à Damas ne contrôle environ qu'un tiers du pays, essentiellement les grandes villes, mais outre la région de la côte méditerranéenne, aujourd'hui en ébullition, les dissidences sont actives dans le sud avec les Druzes et dans l'est avec les Kurdes.
Merci Christian Chénaud. Et puis j'ajoute que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui avait donc fait part de ces affrontements, fait état ce matin de l'exécution de 52 alaouites.
Midi et 46 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Comment évoluent les inégalités entre les femmes et les hommes en France dans le domaine du cinéma, de la musique et des arts en général? C'est l'objet de l'Observatoire de l'égalité dévoilé ce matin par le ministère de la Culture, un outil qui permet de mesurer les avancées mais aussi les piétinements ou parfois les reculs s'agissant de parité, de rémunération ou de récompense. En l'occurrence, Louis-Valentin Lopez, il y a certes du progrès, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir enfin à l'égalité.
Les professions culturelles se féminisent progressivement, mais les femmes en 2025 y restent minoritaires, 46%, alors même qu'elles sont majoritaires nettement dans les écoles qui forment au métier de la culture. Une disparité flagrante dans certains domaines, 30% seulement de femmes, par exemple, dans le secteur de la musique. Elles prévalent, ceci dit, dans d'autres professions, la traduction, la conservation, l'enseignement de l'art. Et la part d'architectes femmes, notamment, a doublé en 20 ans. Du côté des directions, il y a aussi du progrès. Plus de femmes à la tête d'entreprises culturelles. Elles sont majoritaires à la direction des musées nationaux, 56%. C'est encore plus perceptible et rapide dans les centres dramatiques. 22% de femmes directrices en 2018, 45% en 2025. Quelques reculs, ceci dit, notamment du côté des directions d'opéra. Autre point d'achoppement, la rémunération. Là aussi, l'égalité n'est pas encore atteinte, particulièrement dans le spectacle vivant privé et l'édition phonographique. À noter aussi que le montant moyen des aides accordées est souvent plus faible pour une femme que pour un homme. Ces disparités se traduisent enfin dans les récompenses. Les femmes, ces dernières années, ont été majoritaires d'une courte tête dans les prix littéraires, mais elles gagnent toujours moins de Victoires de la musique, de Molière. Même constat dans l'industrie du cinéma, une seule femme primée pour le meilleur film au César depuis 2010, Justine Triet. Il n'y a en 2025 que 27% de réalisatrices, une proportion en légère baisse.
Et je précise qu'en cette veille de journée internationale des droits de la femme, la ministre de la Culture, Rachida Dati, présente en ce moment même un plan contre les violences sexuelles et sexistes dans le monde justement de la culture. On en y reviendra dans le journal de 18h. L'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris à 4 ans de prison, dont 2 fermes pour des activités illicites, notamment au profit du géant du luxe LVMH. À 69 ans, celui qu'on surnomme le Squal a également écopé d'une amende de 200 000 euros, ainsi qu'une interdiction professionnelle pendant 5 ans. Le gouvernement va demander un sursis à exécution pour permettre au chantier de l'A69 de se poursuivre dans l'attente de la procédure d'appel. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre chargé des Transports, tout en se disant déterminé à mener à bien ce projet. Enfin, aucun train TGV, Eurostar, RER ni TER ne circule depuis ce matin à la gare du Nord de Paris, l'une des premières d'Europe, après la découverte la nuit dernière d'une bombe datant de la Seconde Guerre guerre mondiale. Le trafic ne pourra reprendre qu'après la fin des opérations de déminage. Au mieux, à 16h, la SNCF indique que le RER B est reporté à la Plaine Stade de France et Aulnay-sous-Bois et que les lignes K et H sont respectivement reportées à Mitry et Saint-Denis. Des trains à destination de Lille, Dunkerque et Valenciennes ont été reportés gare de Lyon. Enfin, une partie du périphérique a dû être fermée. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec des nuages qui s'amoncellent sur la Bretagne et autour du golfe du Lion. Partout ailleurs, le soleil s'imposera généreusement quant aux températures. Elles seront comprises entre 14 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balut pour le prochain journal de la rédaction.